D'ici 2024, le service national universel devrait être généralisé, un dispositif mis en place en 2019 par le gouvernement d'Emmanuel Macron dans l'idée de renouveler le service militaire et qui rejoint le millefeuille des politiques à destination de la jeunesse. Des mesures transversales en lien avec l'éducation en tête de liste, mais aussi l'insertion, le logement, la santé ou encore les loisirs. En France et en Europe continentale, les politiques jeunesse viennent soutenir le parent et pas directement le jeune, marqué d'une empreinte catholique et de l'idée centrale de subsidiarité. Au contraire, en Europe du Nord, le jeune dès ses 18 ans est lui considéré comme un citoyen à part entière. Alors, depuis 2020, la crise sanitaire liée au virus du Covid a déclenché une crise économique et sociale inédite, particulièrement violente pour cette jeune génération, déjà la première victime des inégalités sociales. Il a alors été question d'une jeunesse sacrifiée, expression et questionnement qui revient à chaque grande crise de l'histoire et qui désigne une souffrance irrécupérable à l'échelle d'une génération. Dans quelle mesure la crise sanitaire a-t-elle rendu les jeunes plus vulnérables? Parle-t-on d'une ou de plusieurs jeunesses? Sur quel modèle sont construites les politiques à destination de ce public? Pourquoi sont-elles inefficientes et qu'est-ce que ça produit chez les bénéficiaires? Élément de réponse tout de suite, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui dans Chercheurs en ville, émission consacrée à la recherche, on reçoit Tom Chevalier. Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes politiste chargé de recherche CNRS, CNRS pour Centre National de la Recherche Scientifique, au laboratoire AREN qui est spécialisé dans les sciences humaines et sociales. Et votre champ de recherche à vous, entre autres, ce sont les politiques publiques en direction des jeunes en Europe. Une jeunesse sacrifiée sous forme de questions, c'est le titre de l'ouvrage que vous avez écrit avec Patricia Loncle en 2021 et c'est paru au Presse universitaire de France. Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
À côté de vous, il y a aussi Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne et professeur de sciences politiques. Bonjour Christian.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Colette, je vous laisse la parole.
Tom Chevalier, dans l'histoire de France, est-ce qu'il y a eu des précédents? Est-ce qu'on a déjà parlé de génération ou de jeunesse sacrifiée?
Alors oui, on a beaucoup parlé de jeunesse sacrifiée. En fait, on en parle assez régulièrement. C'est une expression qui revient en fait à chaque crise économique, sociale ou politique. À l'origine, ça provient d'une étude d'un sociologue allemand, Mannheim, qui a sorti un ouvrage sur les générations en 1928. Et donc c'était dans le sillage de la Première Guerre mondiale, justement dans cette idée de génération sacrifiée du fait de la Première Guerre mondiale et ensuite de la crise économique des années 20. Donc à chaque en fait, crise qui survient, qu'elle soit politique, économique, une guerre ou quoi que ce soit, on a cette idée de est-ce qu'il va y avoir une jeunesse sacrifiée? Et une jeunesse sacrifiée, c'est cette idée que la souffrance et les difficultés qui vont être concentrées sur une génération en particulier vont ensuite les accompagner tout au long de leur vie. Voilà. Et ils ne vont jamais récupérer le bien-être ou la situation qu'ils auraient pu avoir s'ils étaient nés à une autre année et qu'ils n'avaient pas rencontré cet événement.
Là, récemment, cette expression a réapparu. À quelle occasion?
On en a parlé beaucoup avec le Covid, évidemment, puisque c'est une situation qui a, dans un premier temps, touché plutôt les populations les plus âgées. C'était l'enjeu sanitaire de la crise du Covid, puisque la maladie se concentrait sur les populations les plus âgées. Mais assez rapidement, en raison des confinements successifs, il y a eu des difficultés économiques et sociales qui sont apparues, chômage, pauvreté, etc. Et ces difficultés se sont au contraire concentrées sur l'autre bout du cycle de vie, c'est-à-dire les populations les plus jeunes. Et donc c'est à cette aune qu'on a pu parler de jeunesse sacrifiée pour les plus jeunes pendant la crise Covid. Non pas pour des raisons sanitaires, mais bien pour les raisons économiques et sociales.
On verra tout à l'heure les effets de cette période des années Covid et aussi de la crise économique. Mais là, le titre de votre ouvrage, vous le co-dirigez avec Patricia Loncle, et ça réunit 8 contributeurs en tout, si j'ai bien vu, politistes et sociologues. Vous dites une jeunesse sacrifiée. Est-ce qu'on peut parler d'une jeunesse ou des jeunesses?
C'est toujours la question qu'on pose quand on parle de jeunesse, puisque quand on parle de jeunesse, on les compare, donc une tranche d'âge à d'autres tranches d'âge. Donc, par exemple, quand on parle des 18-29 ans, c'est pour les comparer aux 29-50 ou aux 60 et plus, etc., etc. Et donc, quand on fait ça, on mesure souvent des moyennes entre des populations et on les compare l'une avec l'autre. Mais quand on fait ça, il ne faut surtout pas oublier qu'au sein même des tranches d'âge, il y a de grosses inégalités. Et en fait, c'est la raison pour laquelle on a voulu faire cet ouvrage avec Patricia Loncle, donc ma collègue avec qui j'ai pu diriger cet ouvrage. Et l'objectif de cet ouvrage, c'était de dire, oui, il y a des différences entre les tranches d'âge et entre les générations, mais pas seulement. Il ne faut pas oublier les inégalités intragénérationnelles et pas seulement intergénérationnelles, donc entre les générations. Intragénérationnelles, c'est au sein des générations. Elles sont tout aussi importantes. Et donc, c'est quelque chose à avoir, c'est les deux pieds sur lesquels il faut danser quand on parle de jeunesse. Le premier pied, c'est comparer les tranches d'âge et les générations. Et le deuxième pied, c'est toujours avoir en tête qu'il y a des inégalités au sein de la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un point d'interrogation pour cet ouvrage. Une jeunesse sacrifiée, oui, d'une certaine mesure, mais dans une autre mesure, il faut toujours avoir à l'idée qu'il y a des inégalités et que la jeunesse est différente.
Christian Lebar.
Alors, un des nombreux mérites de ce livre collectif, c'est qu'il fait alterner des témoignages, des témoignages, des cas singuliers qui donnent à voir des subjectivités, le sentiment effectivement d'avoir été sacrifié, le sentiment d'être dans une situation très difficile dans la bouche de certains jeunes, et puis il donne aussi des données quantitatives, des données d'enquête. Ce que rend possible, comme le disait Colette, le format d'ouvrage collectif, chaque chercheur ayant ses propres méthodologies. Alors, cette tension entre le quali et le quanti, elle est un peu aussi dans le titre sacrifié, c'est-à-dire sacrifice, c'est à la fois objectivement des inégalités, des situations difficiles, et puis c'est aussi un ressenti, un sentiment d'injustice. Alors comment on peut situer cette tension-là ?
Alors c'est exactement la deuxième raison pour laquelle on a ajouté un point d'interrogation pour cet ouvrage, puisque le deuxième parti pris qu'on voulait avoir dans cet ouvrage, c'était cette idée que quand on parle de génération sacrifiée, on a souvent des approches quantitatives, c'est-à-dire on regarde par exemple avec des données d'enquête ou des données comparées que la situation des jeunes en matière de chômage, en matière de pauvreté, etc. Et on en déduit une situation défavorable pour cette génération, pour cette tranche d'âge. En ayant cette perspective-là, souvent on peut avoir une posture un peu misérabiliste de la jeunesse, c'est-à-dire qu'on la considère comme étant passive, car étant victime d'un certain nombre de difficultés économiques et sociales. Ce qu'on voulait faire avec cet ouvrage, c'était plutôt aussi partir de leur point de vue, ce que permettaient les méthodes qualitatives, en allant les voir, en faisant des entretiens, des observations, et en voyant leur ressenti dans, justement, ces difficultés économiques et sociales. Donc, plutôt que de les considérer comme des sujets passifs, des inégalités intergénérationnelles et des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, plutôt prendre leur point de vue, se remettre à leur place pour voir comment ils font face à ces inégalités et ces difficultés.
Parce qu'il y a aussi un enchantement de la jeunesse, enfin un enchantement propre à l'âge de la vie, disons, hein, sans vouloir le mythifier ou l'exagérer, mais qui peut rendre supportable, voire agréable, voire absolument enchanté des situations qui objectivement relèvent, pour quelqu'un qui observe les choses de l'extérieur, de la précarité ou de l'injustice.
Oui, la jeunesse, c'est une situation un peu paradoxale quand sur plusieurs indicateurs, en fait, sur plusieurs aspects quand on la regarde, puisque d'un point de vue économique et social, c'est un âge de la vie qui concentre les difficultés. Plus de chômage, plus de pauvreté, plus de difficultés économiques et sociales, de vulnérabilité sociale en général. Mais de l'autre côté, quand on regarde par exemple les niveaux de bien-être, ce qu'on voit, c'est au contraire un niveau plus élevé que dans le reste de la population. Souvent, dans l'économie du bien-être par exemple, on voit qu'il y a une courbe en U en fait, en matière de tout au long de la vie, en matière de bien-être. C'est-à-dire que au tout début de votre cycle de vie, donc notamment dans votre jeunesse, la courbe, elle est tout en haut. Donc vous avez un niveau de bien-être assez élevé, ce qui peut sembler assez paradoxal quand on connaît justement les difficultés économiques et sociales. Et donc c'est pour ça qu'il faut voir que la jeunesse, oui, c'est toujours un peu plus compliqué que ça, parce qu'on est en début de vie. On peut aussi accepter des situations qui sont objectivement plus défavorables que pour les autres tranches d'âge, mais comme on est au début de notre vie, eh ben on se projette dans la vie avec une évolution positive. Et donc tout l'enjeu qu'il va y avoir pour la jeunesse de cette manière-là, en matière de santé publique, de santé mentale, de bien-être, c'est la façon dont les jeunes vont se projeter dans l'avenir et la façon dont ils vont considérer leur place dans la société en général. Et que ce n'est pas uniquement déterminé par leur situation économique et sociale. Et c'est le moment où ils vont se sentir déconnectés par rapport au reste de la société, d'une part, et d'autre part, où le pessimisme à l'égard de l'avenir va prendre place, que les niveaux de santé mentale vont décliner. C'est pas uniquement déterminé par le niveau économique et social des individus. Et c'est la raison pour laquelle la situation de Covid a été très très compliquée pour les jeunes en matière de santé mentale, puisqu'on a mis entre parenthèses les réseaux sociaux, les sociabilités juveniles, la possibilité de rentrer dans la vie publique, de faire des sorties, etc. Et de l'autre côté, ça a mis entre parenthèses leur projection dans l'avenir.
Dans votre livre, vous dites bien ça, je crois que c'est 62% des étudiants ou des jeunes adultes qui sont retournés vivre chez leurs parents, entre autres, pendant, j'aimerais bien que vous parliez plus de cette période Covid et des effets que ça a eu, et aussi sur les apprentissages.
Sur la période Covid, il y a encore beaucoup de choses à dire, parce que c'est évidemment, toutes les données ne sont pas encore remontées, c'était encore récent, 2020, et les effets ne sont pas encore complètement finis, donc il faut encore les analyser. Donc toutes les analyses sur la période Covid, il faut toujours les prendre avec beaucoup de nuances, de pincettes, quand on essaye de faire le bilan sur cette période. Ce qu'on peut dire, pour le moment, en tout cas ce qu'on peut commencer à voir sur la jeunesse, c'est qu'il y a eu un choc économique et social. Voilà. Donc il y a eu plus de chômage, plus de pauvreté, etc., etc. Mais d'une part, ça n'a pas duré. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une hausse d'un coup pendant 2020, et c'est revenu, comme dans la période antérieure, assez rapidement en matière notamment de chômage et d'emploi. En matière de pauvreté, c'est beaucoup plus compliqué parce que les données arrivent avec 2 ans de décalage, donc on n'a pas encore accès à toutes les données en matière de pauvreté. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, d'autant plus que, et là c'est pour répondre aussi à votre remarque sur le retour au domicile parental, c'est qu'il y a eu beaucoup de retours au domicile parental. Or, quand on calcule le taux de pauvreté monétaire, donc le taux de pauvreté qu'on utilise le plus souvent, on regarde le ménage. Et donc quand les jeunes vivent chez leurs parents, on prend en compte les revenus du ménage, c'est-à-dire les revenus des parents. Ce qui fait que statistiquement, ça protège les jeunes de la pauvreté. Plus les jeunes vivent chez leurs parents, moins il y a de pauvreté des jeunes. Donc le fait que les jeunes soient retournés dans leur famille, peut-être qu'on verra une baisse de la pauvreté des jeunes. Ce qui ne signifie pas qu'en réalité, il n'y a pas eu une baisse du revenu individuel des jeunes. Mais bon, ils ont dû, ils ont perdu leur emploi, ils ont dû lâcher leur appartement peut-être et retourner chez leurs parents. Donc il y a des choses un peu compliquées qui s'est passé pendant la crise Covid. On est encore en train de le voir, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a de plus en plus mobilisé des indicateurs subjectifs pour essayer de mesurer ce qui s'était passé. C'est-à-dire comment ils ont vécu la situation du Covid, leur situation financière, leur retour chez dans le domicile parental, par exemple, etc. Et c'est quand on pose ces questions subjectives qu'on se rend compte de la dégradation des conditions de vie des jeunes. Pas uniquement quand on regarde les conditions objectives. Là, il y a des effets d'optique parfois, comme je viens de le dire, mais en matière de ressenti, c'est là où on voit une espèce de dégradation des jeunes. Mais en matière, et pour finir, très rapidement, sur les conditions d'apprentissage, là aussi c'est très compliqué, donc il faut prendre avec des parenthèses. On a pu penser qu'il y avait une mise entre parenthèses de certains apprentissages, et donc une dégradation des apprentissages pour les jeunes. Il y a de récentes études qui sortent, qui disent qu'en fait, là aussi, c'est revenu un peu comme à la normale assez rapidement. Donc il y a eu une mise en parenthèse pendant la période Covid, mais qu'en réalité, les apprentissages sont repartis à la hausse et qu'on est revenu à la situation antérieure. Mais là encore, à prendre avec des pincettes, parce que c'est les premiers résultats.
Quand on dit apprentissage, on pense aux jeunes chez les parents ou dans les CTU, par exemple, pour les étudiants ou dans leur chambre, avec tous les cours à distance, le fait que des stages n'aient pas pu avoir lieu, etc., etc., c'est ça aussi.
C'est ça aussi, ouais. Les études qui sortent, alors à prendre avec des pincettes parce que c'est souvent en fait sur le secondaire, très peu sur, enfin beaucoup moins en tout cas sur la période de jeunesse, donc plutôt l'enseignement supérieur. Donc là, c'est pour ça qu'il faut voir ce que ça a donné concrètement sur l'enseignement supérieur, parce qu'il y avait tous ces enjeux-là en fait, les enjeux de comment ça se passe quand vous devez rester dans la résidence universitaire, comment vous faites quand vous n'avez pas accès aux ressources de l'université, alors que l'entrée dans l'université, c'est aussi l'apprentissage du travail en autonomie, du travail à l'université, où vous devez bénéficier des ressources de l'université, etc. Et tout ça, ça a pu être mis entre parenthèses. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a utilisé cette expression avec Patricia, du piéger dans les limbes de l'enfance. Et c'est ce qu'on a trouvé, par exemple, un des risques pour l'université pour les premières années, c'est qu'ils sont rentrés dans l'université, avec donc, en théorie, des changements de mode de travail, prise en autonomie, etc. Sauf qu'ils n'avaient pas forcément accès, en raison du fait qu'ils sont passés dans un apprentissage à distance, aux ressources de l'université, à la possibilité de bénéficier donc, des enseignants en présentiel, et que donc ça a pu les prolonger en fait leurs habitudes acquises dans le secondaire.
Christian.
Oui, les collègues des filières universitaires, en particulier celles qui ont un public d'origine populaire, ont beaucoup insisté sur le fait qu'en première année, le taux d'évaporation, qui est déjà significatif en temps ordinaire, avait été décuplé à l'occasion de la période Covid, comme si au fond l'intégration à l'université ne se faisait pas. À partir du moment où on reste chez soi, tout se passe comme si on était interdit d'accès à l'université, quoi.
Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, c'est ce qu'on essaye aussi de mentionner dans l'ouvrage, en raison, par exemple, du maintien de la formation à distance. C'est qu'à partir du moment où il y a un maintien dans le domicile parental, et donc qu'on donne une importance à la famille et donc à l'origine sociale, de fait, ça accroît les inégalités. Puisque le fait de pouvoir sortir de la famille en rentrant dans l'enseignement supérieur et donc de possiblement bénéficier, alors là aussi il y a toujours de grosses inégalités évidemment, hein, mais le fait de sortir de ce domicile parental, de rentrer à l'université, de pouvoir bénéficier des ressources des universités, des enseignements, etc., ça permet une certaine redistribution des connaissances, des ressources à tous les étudiants, dans une certaine mesure. Le fait de ne pas pouvoir en bénéficier fait que vous reposez sur ce qui est à votre disposition, c'est-à-dire les ressources parentales. Si vous avez la chance d'avoir des parents qui ont une bibliothèque à la maison, un espace de travail, un ordinateur connecté Wi-Fi, vous avez plus de chances de réussir votre premier d'université que si ce n'est pas le cas.
Avec son petit boulot dans un fast-food, c'était déjà difficile de joindre les deux bouts, encore plus depuis le confinement, une période pendant laquelle son travail l'a mise au chômage partiel.
J'ai vu mon salaire réduit à 80%, c'est quelque chose déjà, j'ai gagné 560 € par mois, et ça s'est réduit à 400.
Les plages de Quiberon, théâtre d'un nouveau cluster, avec un public bien précis.
C'était essentiellement, on va dire 95%, sinon 100%, une population de jeunes.
C'est dur d'avoir 20 ans en 2020.
En France, pour lutter contre la précarité, deux repas à 1 € sont offerts chaque jour dans les restaurants universitaires. Les jeunes bénéficient aussi d'un chèque psy pour aller consulter sans avance de frais. Et puis les autorités ont lancé le plan « Un jeune, une solution ». 6,7 milliards d'euros pour favoriser l'entrée des jeunes sur le marché du travail.
Extrait de reportage des chaînes RMC Découverte, CNews et Le Temps, un média suisse, entre 2020 et 2021.
Et alors, il y a eu l'autre dimension aussi qui était le sentiment d'être privé de jeunesse. Alors moi qui m'a beaucoup intéressé, parce que être privé de jeunesse, ça renvoie, et on retrouvait ça effectivement au moment des guerres, sur lesquelles vous ouvriez cet échange, ça renvoie à l'idée d'un droit à la jeunesse, c'est-à-dire droit à l'insouciance, droit au bonheur, sous une forme particulière, les sociabilités juveniles, etc. Et il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont dit, bon voilà, on est passé à travers, on est toujours à l'université, etc. Les performances scolaires ne sont pas en cause, mais ce qui est en cause, c'est tout simplement le droit au bonheur sur cette période très particulière.
Oui, c'est un peu le ressenti qu'on a pu avoir pour les jeunes pendant cette période-là, puisque effectivement l'âge de la jeunesse, donc du point de vue de la jeunesse comme âge de la vie, c'est une période d'expérimentation. Voilà, c'est quelque chose qui a été bien décrit par tous les ouvrages, les auteurs en sociologie de la jeunesse. C'est un moment de la vie où vous apprenez votre métier d'adulte, votre rôle d'adulte. Et donc, vous rentrez dans la vie publique, à l'université, dans le monde du travail, etc. Et donc, c'est une période de la vie qui est faite d'expérimentation, où vous rencontrez des gens, vous avez de nouvelles socialisations, de nouvelles expériences, en dehors de votre domicile parental et au-delà de votre enseignement secondaire de formation initiale. Et c'est ça qui fait le sel de la vie de la jeunesse et qui fait qu'il y a notamment donc des niveaux de bien-être relativement élevés au sein de la jeunesse. Et c'est ce qui a été mis entre parenthèses, vous voyez où je veux en venir, c'est ce qui a été mis entre parenthèses au moment du Covid. Toutes ces expérimentations, ces entrées dans l'âge adulte, quelles qu'elles soient, dans le monde du travail, à l'université ou autre, c'est ce qui a été mis entre parenthèses et ce qui a pu poser problème du point de vue de la santé mentale des jeunes. Avec un bémol, bien entendu, toujours avoir en tête qu'il y a de grosses inégalités au sein des jeunes. Ce n'est pas parce qu'en moyenne, voilà, l'âge de la vie de la jeunesse auparavant, c'était cette entrée, pas joyeuse, mais voilà, où il y a des expériences positives d'entrée, voilà, il y a de très fortes inégalités en fonction des origines sociales, en fonction voilà, de ce que font vos parents, de votre niveau d'études, etc., etc.
Christian parlait de cet enchantement de cette période et que vous avez nuancé. Dans le livre, il y a aussi une manière d'être et de réagir, et donc la colère. Vous avez deux, je crois, Cécile Van de Velde et Sarah Picard, c'est ça, qui font des portraits de trois jeunes adultes en colère.
Oui, un des aspects générationnels, presque, qu'on peut dire, qui ressort en fait des études sur la jeunesse, et notamment du rapport aux politiques des jeunes générations, c'est à la fois une colère, donc c'est ce qu'ont pu montrer donc Cécile Van de Velde et Sarah Picard dans leur chapitre, une forme de colère au sein des jeunesses, et presque quel que soit le type de jeunesse considéré. Donc ce qu'elles montrent, donc dans leur chapitre, il y a trois portraits de jeunes. Un jeune plutôt de milieu populaire qui vient faire une manifestation gilet jaune et qui est en colère contre la société. Il y a une jeune qui fait des études, qui est aussi en colère contre la société et qui décide de d'investir sa vie quotidienne pour en tant qu'engagement politique. Et il y a une troisième figure de la colère qui est ce jeune qui est investi dans le mouvement Extinction Rebellion et donc en faveur de l'écologie. Et en fait, c'est ce qu'on voit un peu au niveau générationnel, c'est une forme de colère très forte qui est liée aussi, on le voit dans les études de sociologie politique donc sur la jeunesse, de défiance, un niveau de défiance très élevé au sein de la jeunesse à l'égard de la politique traditionnelle. Et donc voilà, défiance, colère, c'est un peu les deux aspects qu'on peut voir qui se déclinent différemment en fonction des milieux sociaux, en fonction des trajectoires juvéniles, en fonction des niveaux d'éducation, voilà, de plein d'aspects qui permettent de comprendre la diversité de la jeunesse, mais c'est une récurrente qu'on peut apercevoir au sein des nouvelles générations quand on les compare aux anciennes générations où ces niveaux de défiance à l'égard de la politique traditionnelle étaient beaucoup moins élevés.
Sur cette tranche d'âge des 18-25 ou 18-30 ans et leur rapport aux institutions, vous êtes spécialiste des politiques publiques qui sont appliquées dans les différents pays d'Europe. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la France et d'autres pays européens ? Est-ce que ce niveau de défiance et de frustration vis-à-vis des institutions est particulier et en France et en cette période, ou pas ?
On trouve de très grandes différences en matière de politique publique en direction des jeunes quand on compare les différents pays européens, sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est la façon dont fonctionne par exemple le système éducatif et les politiques de l'emploi. C'est-à-dire toutes ces politiques publiques qui vont permettre aux jeunes de rentrer sur le marché du travail, d'accéder à un emploi et d'accéder à un certain type d'autonomie via cette entrée sur le marché du travail. Et ce qu'on peut voir en Europe, c'est deux stratégies complètement différentes. Une première stratégie qui va chercher à monter le niveau d'éducation de tous les jeunes, c'est-à-dire de limiter les sorties du système éducatif sans qualification, puisqu'on sait que les jeunes qui ont le plus de difficultés sur le marché du travail sont les jeunes avec les niveaux de qualification les plus bas. Et donc, on va essayer de limiter par le bas, on va essayer de limiter les sorties sans qualification du système éducatif. Et donc on va investir dans le capital humain, le niveau d'éducation de tous les jeunes, et surtout, c'est ça qui est important, ceux qui sont en bas de l'échelle de distribution des compétences, c'est-à-dire ceux qui sont en bas de la compétition scolaire, si vous voulez. Voilà, on va essayer d'investir sur ces jeunes-là pour les faire monter en compétences et qu'ils puissent accéder à l'emploi. Ça, c'est par exemple la stratégie qui est suivie dans les pays du nord de l'Europe. Mais il y a une autre stratégie qui est suivie en Europe, qui est une stratégie plutôt élitiste. Voilà, élitiste parce que un système éducatif qui a gardé en fait ses caractéristiques institutionnelles héritées de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, comme on a en France ou dans les pays du sud de l'Europe, où les systèmes sont très fortement élitistes, c'est-à-dire que l'objectif du système éducatif n'est pas de garantir un niveau minimal de compétences à tous les jeunes, mais d'identifier l'élite de la nation. Une élite qui passe par la reconnaissance d'un titre scolaire. Et donc, le système éducatif est complètement différent. L'objectif, le système éducatif n'est pas tourné vers le bas de l'échelle de distribution, donc les peu qualifiés, pour garantir un niveau minimal de compétences, mais il est tout entier tourné vers le haut de l'échelle de distribution. On va se focaliser sur les meilleurs. Et on va en fait laisser un petit peu tomber ceux qui sont les plus en difficulté. Et
donc alors même que le discours politique des ministres, quelques couleurs politiques qu'ils aient depuis 30 ans, emprunte en réalité beaucoup plus au premier modèle qu'au deuxième.
On parle beaucoup de ce premier modèle, mais tout l'enjeu, c'est dans quelle mesure on va réussir à mettre en place des réformes qui permettent de mettre en place ce modèle. C'est toujours très très difficile de changer, de faire des changements structurels des systèmes.
Donc les symboles, c'est quoi ? C'est les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est les grandes écoles d'une façon générale.
C'est ça. En France, typiquement, le symbole de ça, c'est surtout le système des grandes écoles. Le système des grandes écoles qui innerve tout le système éducatif, donc dans l'enseignement supérieur, ça part du haut, dans l'enseignement supérieur, avec d'un côté un système sélectif avec le système des grandes écoles, et de l'autre côté un autre système de l'université non sélectif. Mais ensuite, ça traverse tout le système éducatif jusqu'en bas, du fait des pratiques pédagogiques, qui sont des pratiques pédagogiques très verticales, qui visent à organiser la compétition scolaire plutôt que d'avoir des pratiques pédagogiques horizontales qui visent à augmenter le niveau de compétences de tous les élèves. Et c'est aussi, vous mentionnez le privé, c'est aussi un des aspects qui permet aussi de différencier le système et d'organiser la compétition scolaire, de pouvoir proposer une option de sortie pour les parents qui considèrent que leur établissement n'est pas du niveau qu'ils souhaitent. Donc ça, c'est le premier aspect, le niveau d'éducation et les différentes stratégies qu'on a en Europe. La deuxième, en matière de politique publique, c'est la protection sociale et dans quelle mesure, en gros, on considère les jeunes comme des enfants ou comme des adultes. Voilà, on a des pays qui considèrent les jeunes comme des adultes, donc vous pouvez accéder aux prestations sociales à partir de 18 ans, et vous avez des pays qui considèrent les jeunes comme des enfants, et donc les prestations sociales ne sont pas accessibles aux jeunes avec des limites d'âge, comme en France, pour le RSA, à 25 ans. En dessous de 25 ans, vous n'êtes pas un adulte du point de vue de la protection sociale. Et ça, ça a des effets en matière de défiance politique.
On va faire une pause musicale et on reviendra sur cet aspect d'infantilisation des moins de 25 ans. On fait une pause musicale avec le groupe Horses qui nous interprète Wasted Youth.
I'm not your type, and I'm just dreaming wild.
Aujourd'hui dans Chercheurs en ville, l'émission de Canal B consacrée à la recherche universitaire, on reçoit Tom Chevalier, politiste chargé de recherche CNRS au laboratoire à Rennes, spécialisé dans les sciences sociales. Une jeunesse sacrifiée, point d'interrogation, c'est le titre de l'ouvrage qu'il a écrit avec Patricia Loncle en 2021 aux presses universitaires de France. En première partie d'émission, il a été question de l'impact de la crise sanitaire sur la ou les jeunesses. Dans un instant, détail des politiques jeunesse au sein de l'Europe et pistes d'amélioration pour le système français.
Tom Chevalier, pourquoi est-ce que le système français infantilise les 18-25 ans ?
Alors, d'abord, le diagnostic, il l'infantilise de plein de façons différentes parce que ça fait système. Voilà, c'est un système familialisé qu'on a en France, mais qu'on n'a pas seulement en France, qu'on a dans tous les pays en gros d'Europe continentale, où on considère que c'est à la famille de prendre en charge leurs enfants, même s'ils sont adultes, du point de vue de la majorité civile ou politique, par exemple. Et donc, c'est des pays où on va avoir des obligations alimentaires en direction des parents lorsqu'ils ont un enfant majeur, mais toujours financièrement dépendant.
On donne l'argent aux parents.
Ils sont légalement obligés de prendre en charge leurs enfants dans ces situations-là, même après 18 ans, donc même après l'âge de majorité civile. Oui. Alors après, ça dépend des jurisprudences, c'est plus ou moins appliqué en fonction des pays, etc., etc. Mais c'est présent dans le code civil des différents pays. Ensuite, du point de vue de la protection sociale, on a donc cette idée que les jeunes ne sont pas des allocataires en leur nom propre, ne sont pas des citoyens sociaux à part entière, mais sont plutôt des ayants droit, des enfants à charge. Et donc, on mobilise davantage des aides indirectes, c'est-à-dire on aide les parents à aider leurs enfants. Voilà, donc on va mobiliser des aides fiscales pour aider les parents à aider leurs enfants, et on va avoir des limites d'âge dans la protection sociale, comme je disais tout à l'heure, notamment pour le revenu minimum, comme on a en France pour le RSA. Donc, en dessous de 25 ans, vous ne pouvez pas, sauf quelques exceptions, vous ne pouvez pas réclamer le revenu minimum dans ces pays-là. Et pour les étudiants, les étudiants dans ces systèmes familialisés sont toujours des enfants également. Et donc on va plutôt mobiliser la politique familiale, puisque la politique familiale c'est encore une fois une politique d'aide aux familles à aider leurs enfants. Donc on mobilise la politique familiale pour aider les parents qui aident leurs enfants toujours dans l'enseignement supérieur, avec des bourses qui dépendent du revenu des parents, puisque le but des bourses n'est pas de garantir l'indépendance des étudiants, mais d'aider les parents qui n'en ont pas les moyens à prendre en charge leurs enfants toujours scolarisés. Voilà, donc ça c'est un peu le diagnostic. Voilà, on a ça un peu, ça fait système en fonction de toutes les politiques publiques dans tous les pays d'Europe continentale. Et la raison, il y a deux raisons principales pour comprendre en fait pourquoi on a ces pays-là qui ont choisi ce système familialisé plutôt que d'autres pays comme les pays du Nord, les pays anglo-saxons qui reconnaissent le statut d'adulte des jeunes. C'est deux raisons. La raison religieuse, tout simplement, qui fait que les pays d'Europe continentale sont marqués par l'Église catholique, et l'Église catholique a développé une théorie sociale, c'est-à-dire la place de l'État dans la prise en charge des plus vulnérables. Et dans cette théorie, il y a cette idée de principe de subsidiarité. On donne aux familles le soin de prendre en charge en premier lieu les plus vulnérables, donc c'est-à-dire les femmes, les pauvres et les jeunes, aujourd'hui. Première raison. Et deuxième raison, c'est comment fonctionnent les syndicats. En fait, ce qu'on voit, c'est que les syndicats, plus ils sont représentatifs, donc plus ils prennent, ils représentent une grande palette de profils de travailleurs, plus ils vont défendre les intérêts des jeunes et leur accès à la protection sociale. Pourquoi ? Parce que les jeunes sont une catégorie de travailleurs très très spécifique qui sont des travailleurs qui viennent de rentrer sur le marché du travail, qui potentiellement vont rencontrer le chômage, mais ils n'ont jamais travaillé avant. Ils n'ont pas cotisé, ils sortent de formation initiale. Or, ce public-là, ce n'est pas le public traditionnel des syndicats. Donc quand les syndicats sont peu représentatifs, comme on a par exemple en France, ils ne représentent que très peu ce type de public de travailleurs. Alors que dans les pays où les syndicats sont beaucoup plus représentatifs, du coup, ils représentent également, il y a beaucoup plus de jeunes en gros qui participent aux syndicats, et donc ils vont plutôt remonter ces demandes de travailleurs spécifiques, et donc un accès plus grand à la protection sociale.
Christian.
Alors je trouve vraiment l'analyse très, très lumineuse et très éclairante. Et alors quel lien quand même avec la, je reprends votre expression de tout à l'heure, la défiance vis-à-vis du système politique, parce que effectivement on peut discuter de cette inscription familiale, voire un peu familialiste, au relent un peu catho, effectivement valeur famille, etc. de l'encadrement de la jeunesse, mais alors que ça produise des effets un peu de sous-citoyenneté, je le comprends très bien. C'est-à-dire que du coup, effectivement, il y a une espèce d'ignorance de l'État-providence, puisque l'État-providence s'adresse aux parents, et du coup, on est un peu à l'étage en dessous, quoi. Mais défiance politique.
Dans certains de mes travaux, ouais, j'ai pu montrer que du coup, plus l'État familialise sa protection sociale et son action publique en direction des jeunes, et plus les niveaux de défiance politique, donc à l'égard de l'État, vont être importants chez les jeunes. Pourquoi ? Là, on peut faire l'hypothèse de deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est en lien avec ce que vous dites, c'est-à-dire c'est le mécanisme lié à la visibilité et à la connaissance de l'action de l'État-providence. Si vous familialisez l'action publique, ça ne veut pas dire que l'État ne fait rien. Ça ne veut pas dire que l'État ne dépense pas beaucoup. Et en l'occurrence, en France, c'est familialisé, mais il dépense beaucoup.
Mais il ne s'adresse pas à vous.
Ça veut dire que vous n'êtes pas au courant de l'action publique de l'État. Ouais. Il n'est pas visible pour vous, puisque ça passe par vos familles, ça passe par vos parents. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Et le deuxième mécanisme, c'est un mécanisme plutôt symbolique. C'est-à-dire que, en gros, si l'État familialise son action publique, d'une certaine façon, il infantilise donc les jeunes, et infantiliser les jeunes alors que ce sont des adultes par ailleurs, sur tous les autres aspects de l'action publique, c'est une forme de défiance de l'État à l'égard des jeunes. Et donc en fait, ça fait système. Si l'État a une défiance à l'égard des jeunes au point de l'infantiliser, de les infantiliser, eh bien en retour, les jeunes n'ont pas confiance en l'État. Et c'est quelque chose d'assez flagrant quand vous discutez par exemple avec des jeunes danois qui vous diront assez facilement, dès que vous commencez à leur parler de leur fameuse bourse universelle pour tous les étudiants, ils vont dire « mais nous on sait que l'État il est là, en fait on peut faire ce qu'on veut, on va être au chômage, on reprend des études, on va au travail, etc. On sait qu'on sera couvert, il y aura une aide de la part de l'État, on a une grande, voilà, la confiance est beaucoup plus forte parce que voilà, l'État fait confiance dans les jeunes et l'action de l'État est très visible. »
À 9 jours de l'élection, les étudiants font entendre leur colère sur l'affiche qui les attend. Tout le monde ici est opposé à la politique écologique ou sociale menée par Emmanuel Macron ces 5 dernières années. Si certains restent mesurés par la peur d'une arrivée au pouvoir de Marine Le Pen...
Si je vote blanc et que l'extrême droite passe au pouvoir, je m'en voudrais.
D'autres, comme Elliot, ne cachent pas leur choix, ils s'abstiendront.
Je n'irai ni voter pour Macron, ni voter pour Le Pen. Là, on sort de 5 ans d'une violence inouïe au niveau des droits sociaux.
Extrait d'un reportage diffusé sur RMC au printemps 2022 dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle.
Est-ce que le non-recours aux aides possibles dont vous parlez dans votre livre, ça participe aussi de cette défiance? Le fait de ne pas savoir qu'on peut bénéficier de tel soutien, de telle aide, etc.
Oui. Alors, c'est vrai que pour les jeunes, on a un taux de non-recours particulièrement élevé. Le non-recours, c'est le fait de ne pas réclamer un droit, un dispositif auquel vous avez droit.
L'allocation logement, par exemple.
Par exemple, vous avez droit à l'allocation logement, vous ne la demandez pas. Ça, c'est du non-recours. Et donc, on a un chapitre de Léa Lima et Benjamin Vial sur ce sujet du non-recours. Et en fait, ce qui ressort par rapport à votre question, c'est d'une part la non-connaissance. Voilà, ce qui explique une grande partie du non-recours des jeunes, c'est la non-connaissance de leurs droits, de l'action de l'État, qui est liée au fait ce que je viens de dire. C'est tout simplement, il y a très peu de choses, et ce qui existe, c'est plutôt en direction des parents. C'est-à-dire, vous n'avez pas accès aux droits communs. Et les choses qui existent, donc il y a beaucoup de choses qui existent, il y a beaucoup de dispositifs jeunesse en France, c'est ce qu'on appelle le millefeuille des dispositifs jeunesse, mais c'est parce qu'il n'y a pas accès aux droits communs, et bien l'État, du coup, remplit le vide d'une multitude de dispositifs. Mais du coup, c'est d'une complexité sans nom, c'est très peu visible et lisible pour les jeunes, et donc ça crée du non-recours. Et le deuxième aspect, c'est lié à cette défiance dont vous parlez, pour le non-recours, c'est l'idée que si, à longueur de journée, on vous dit, si vous réclamez le RSA, si vous réclamez vos droits, c'est de l'assistanat, eh bien, les jeunes, ils vont tout simplement dire, on ne va pas réclamer, parce qu'on n'est pas des assistés. Nous, on a envie de rentrer dans la vie, on a envie de travailler, d'avoir une vie normale comme les autres.
D'être reconnu.
Et donc, si réclamer nos droits, c'est être considéré comme des assistés, effectivement, on a une part des jeunes, du coup, qui ne vont pas réclamer leurs droits et qui vont essayer de se débrouiller tout seuls, indépendamment de l'État. Et c'est une des raisons du non-recours.
Alors, la description est tout à fait convaincante, mais quand même, il y a une singularité française, enfin relative, mais liée à la gratuité d'une partie de l'enseignement supérieur, quand même. Il y a un enseignement supérieur public qui est quasi gratuit, ce qui est quand même une modalité de financement, d'aide, de soutien à la jeunesse, qui n'est pas négligeable. Et j'ai quand même l'impression que ça génère, quand même, au moins sur la modalité un peu passive qui est la défense des acquis, ça génère quand même des formes de politisation, par exemple mobilisation des universités contre toute une série de réformes qui viseraient à remettre en cause cette gratuité. Donc ça fonctionne. Enfin, il y a, je trouve, beaucoup chez les jeunes aujourd'hui l'idée d'une sorte de trésor à préserver là autour de cette gratuité, même si c'est une fausse gratuité.
Oui, c'est un gros enjeu, hein, cet aspect de la gratuité des universités, puisque c'est effectivement une aide très très importante de la part de l'État en matière de soutien à l'enseignement supérieur, qu'on ne retrouve pas dans tous les pays. Donc on a des pays où les frais d'inscription sont très élevés, hein, aux États-Unis, en Angleterre, voilà, on sait que c'est les taux
de... Le modèle de l'étudiant endetté, ça traumatise la jeunesse aujourd'hui. Hein.
Voilà, c'est vraiment un enjeu très très important, mais effectivement qui souffre d'effets d'optique là encore. Le premier effet d'optique, c'est que cette gratuité, elle se focalise surtout sur l'université. Quand on parle de la gratuité des études supérieures, on parle surtout de la gratuité de l'université. Or, l'université, c'est qu'une partie de l'enseignement supérieur qui focalise un peu les regards et les débats quand il y a un projet de réforme, en oubliant souvent que, comme je disais, la structure de l'enseignement supérieur en France, il est moins guidé par l'université que par les grandes écoles. Et donc, déjà, il faut toucher à cette différence entre les deux. Et une des conséquences de ça, d'oublier cette fragmentation du paysage universitaire, c'est du coup, à la marge, la progression, l'essor du privé au sein de l'enseignement supérieur, qui lui, pour le coup, est payant. Et qui, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais qui a, je crois, doublé en 10 ans, je crois, sa place. Enfin, c'est l'essor du privé est très très importante, mais parce qu'on se focalise comme si l'université était le tout de l'enseignement supérieur en France, alors que ce n'est pas le cas. Premier élément. Et deuxième élément, effectivement, il y a aussi beaucoup de mythes sur l'endettement des étudiants. Premier élément, on peut avoir du prêt étudiant et de l'endettement, même avec de l'enseignement gratuit. Donc, par exemple, dans les pays nordiques, l'enseignement est complètement gratuit. Il est encore plus gratuit qu'en France, puisqu'en France, on a des frais de scolarité. C'est juste qu'ils sont très bas. Dans ces pays-là, pas du tout de frais de scolarité. C'est complètement public, complètement subventionné. Donc, il n'y a pas du tout de frais de scolarité. Pour autant, il y a des prêts. Et les prêts sont plutôt largement utilisés par les étudiants. Mais les prêts dans ces pays-là, ce sont des prêts un peu comme en Angleterre, mais avec quelques différences, mais ce sont des prêts bien spécifiques dont on parle très peu en France ou qui sont mal compris, parce qu'ils sont un peu compliqués. Ce n'est pas des prêts classiques donnés par votre banque commerciale où vous allez vous endetter classiquement, comme on a par exemple aux États-Unis. Ce sont ce qu'on appelle, avec un nom un peu compliqué, des prêts à remboursement contingenté aux revenus futurs. Qu'est-ce que ça veut dire très simplement ? C'est des prêts organisés par l'État. Ils vous donnent de l'argent et en gros, vous ne remboursez ce prêt que si vos revenus, une fois que vous rentrez sur le marché du travail, dépassent un certain niveau. C'est-à-dire que si vous avez un emploi avec un très bas revenu ou que vous êtes au chômage, vous ne remboursez pas les prêts. Et donc, vous n'avez pas cette figure de l'étudiant endetté, en difficulté, ne pouvant pas rembourser. Puisqu'il y a des mécanismes pour justement ne pas être dans ces cas-là. Vous ne remboursez que si, au contraire, vous avez un emploi qui vous le permet. Et du coup, ces prêts-là, pourquoi ils ont été introduits ? Pour justement introduire un peu de justice sociale. Parce que qui sont les étudiants dans ensuite la structure sociale une fois qu'ils sortent de leurs études ? Les étudiants sont ceux qui vont avoir les revenus les plus élevés quand ils vont accéder à l'emploi. Or, déjà, ceux qui vont rentrer dans l'enseignement supérieur, ce sont déjà ceux qui ont des origines sociales plutôt favorisées. Donc si ils ne doivent pas du tout participer à l'effort de formation, alors que c'est ceux qui en bénéficient le plus, et qu'en plus ils étaient favorisés parce que leurs parents les ont aidés ou privilégiés à rentrer dans l'enseignement supérieur, c'est vraiment pas juste d'une certaine façon. Et c'est la raison pour laquelle dans ces pays-là, on a décidé, ok, on va introduire un petit mécanisme de prêt qui fait que ces individus, donc ces jeunes qui ont beaucoup profité en fait de l'enseignement supérieur, qui vont avoir les jobs les plus rémunérateurs, etc., ben faut qu'ils participent un petit peu quand même à leur formation, au financement de la formation. Alors après, il y a des différences. Par exemple, en Angleterre, c'est uniquement du prêt. Alors que dans les pays nordiques, ça va être un petit mélange de bourse et de prêt. Un petit mélange de bourse universelle, c'est-à-dire tous les étudiants peuvent bénéficier d'une bourse, que vous complétez, si vous le souhaitez ou non, par un prêt de ce type-là.
Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans le système français en s'inspirant éventuellement de modèles nordiques ou autres pour aider efficacement les étudiants, et pas que les étudiants, les jeunes adultes, actuellement ?
Alors pour les étudiants, grosso modo, il y a deux éléments absolument centraux dont il faut s'inspirer quand on regarde les pays nordiques. Alors évidemment, impossible de faire tel quel, et il faut garder, prendre en compte l'histoire de chaque pays, la culture, les institutions, etc. Donc on ne peut pas faire un copier-coller d'un pays à l'autre. Mais les deux aspects dont il faut s'inspirer, c'est le premier, c'est la reconnaissance du statut d'adulte des jeunes dans ces pays-là, qui permet aux jeunes d'accéder aux droits communs et d'accéder du coup à des aides quand ils sont dans des situations de difficulté, quand ils sont étudiants, mais pas que, quand ils sont au chômage, etc., etc.
Dès 18 ans.
Dès 18 ans.
Aussi.
Le deuxième aspect, c'est l'importance de donner des deuxièmes chances. En France, on a cette spécificité. On a un auteur, par exemple, qui a fait un chapitre dans notre ouvrage, Nicolas Charles, qui parle du système TGV de la France. En France, on fait un système TGV pour les étudiants. C'est-à-dire, vous montez dans le TGV quand vous avez 18 ans. Et si vous loupez le TGV, ben vous pouvez plus en avoir, c'est trop tard. Et si vous, une fois que vous montez dedans et que vous voulez changer, ben vous sautez dans le TGV, mais c'est à vos risques et périls. C'est-à-dire qu'en gros votre vie, elle est plus ou moins fini, achevé, déterminé en fonction des choix que vous faites quand vous avez 18-20 ans, des établissements dans lesquels vous allez, etc., etc. On a très peu de possibilités de deuxième chance. Voilà, quelqu'un qui a décroché et qui aimerait reprendre ses études, ou quelqu'un qui a commencé des études, qui voudrait arrêter et qui voudrait reprendre une autre formation, ou tout simplement les aléas de la vie. Vous prenez en charge votre parent malade et ensuite vous voulez revenir, ou vous avez un enfant et vous voulez revenir achever votre formation. Toutes ces situations-là, elles sont très difficile en France. Alors que dans les systèmes nordiques, tout le système est entièrement structuré autour de cette idée de deuxième chance. Créer des passerelles, créer des possibilités pour les individus, quel que soit leur âge, de revenir dans le système pour qu'ils puissent se former et perpétuellement et accéder à de la formation. Voilà, donc ça, c'est deux aspects absolument structurants. Et pas que pour les étudiants, c'est mon dernier point, très rapidement. Il ne faut pas oublier de dire, on parle beaucoup des étudiants, mais les étudiants, c'est qu'un jeune sur deux. Quand on regarde la tranche d'âge, hein, c'est un jeune sur deux. Et ce ne sont pas, encore une fois, les jeunes qui sont les plus en difficulté, même si ça concentre les discours, etc., etc. Ceux qui sont en difficulté, ce sont ceux qui ne sont pas étudiants, qui ne sont pas en emploi, c'est-à-dire les jeunes au chômage, les jeunes NEET, dont on parle souvent. NEET, c'est l'acronyme Not in Education, Employment or Training, donc c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en éducation et pas au travail, qui ne sont avec des niveaux d'éducation très bas, c'est eux qui sont les plus en difficulté, c'est eux qu'il faut aider en premier lieu. Voilà, il ne faut pas l'oublier.
Christian.
Oui, il y a eu à Sciences Po Rennes l'année dernière un très beau mémoire de recherche fait par une étudiante sur des cas singuliers mais qui finissent par s'additionner de diplômés de Sciences Po qui deviennent agriculteurs, qui deviennent boulangers, qui deviennent artisans, cuisiniers, etc. Voilà, donc qui sont montés dans le TGV, eux, mais qui, à la première gare, sont descendus avec parfois des commentaires du type « Bon, ça y est, j'ai fait Sciences Po, mes parents sont contents. Maintenant, je vais pouvoir un peu vivre ma vie ou faire autre chose. » Est-ce que... Je pense aussi à la manifestation des diplômés d'AgroParisTech.
N'attendons pas d'être incapables d'autre chose qu'une pseudo-reconversion dans le même taf, mais repeint en vert. N'attendons pas le 12e rapport du GIEC qui démontrera que les États et les multinationales n'ont jamais rien fait d'autre qu'aggraver les problèmes et qui placera ses derniers espoirs dans les soulèvements et les révoltes populaires. Vous pouvez bifurquer maintenant. Commencer une formation de paysan boulanger, partir pour quelques mois de bouffing, participer à un chantier sur une ZAD ou ailleurs, vous engager auprès de celles et ceux qui en ont besoin, vous investir dans un atelier vélo autogéré ou rejoindre un week-end de lutte avec les soulèvements de la terre. Ça peut commencer comme ça. À vous de trouver vos manières de bifurquer.
Est-ce que on peut dire qu'il y a quand même un mouvement de fond dans la jeunesse aujourd'hui qui vient subvertir un peu cet effet TGV, enfin tous ces mécanismes de sélection précoce, d'enfermement dans des filières, d'élitisme à la française, etc. Ou est-ce que c'est des petits moments romantiques qu'on a envie de monter en épingle, mais qui structurellement pèsent peu?
Alors il y a deux aspects dans votre question. Le premier aspect, c'est la façon dont on arrive à composer avec le système élitiste, donc TGV du système français. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de crispation. Hein, ça vient de toutes parts. Ça vient des étudiants, parce que le niveau de stress, par exemple, est très, très élevé parmi les jeunes Français en comparaison internationale à cause de ça, de cette pression. On sait que j'ai pas 36 000 possibilités, hein, 36 000 chances, donc il faut que je réussisse tout de suite. Et un stress qui vient chez les parents également, évidemment, puisque les parents, du coup, sont mis à contribution pour orienter, guider les jeunes dans cette première option qui sera peut-être la dernière, renforcée par cette idée de familialisation du système. Donc, on donne beaucoup de place aux familles. Donc, ça stresse les parents qui stressent leurs enfants, qui sont stressés eux-mêmes. Donc, beaucoup de stress, grosso modo. Et donc, ça crée beaucoup de crispation en ce moment. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on en parle beaucoup. Et ça s'illustre beaucoup autour des discussions autour de Parcoursup, puisque Parcoursup, la raison pour laquelle on en a beaucoup parlé, c'est parce que ça concentre tous ces enjeux de « vous n'avez qu'une chance », on sait en fait que c'est le moment où tout se joue. Et donc c'est pour ça que tout le monde est stressé. Dans un système où vous avez plusieurs chances, et ben en fait ce moment-là de Parcoursup, de fin de lycée, il est beaucoup moins important en fait. Puisque voilà, peut-être vous allez vous tromper, mais vous pourrez revenir dans le système un peu plus tard. Ça permettrait de désacraliser. Donc on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et donc il y a beaucoup de discussions au sein, il y a des projets de réforme, tout le monde est un peu conscient de cet enjeu-là de toute façon, mais c'est très très difficile de faire des réformes du système éducatif et de l'enseignement supérieur, c'est très très compliqué. Deuxième aspect, c'est le rapport des jeunes au travail. le rapport des jeunes au travail, à leurs études. Et là, ce qu'on voit, c'est un peu la même chose que ce qu'on a aussi dans le rapport des jeunes aux politiques, c'est que les nouvelles générations, bah, elles métamorphosent, elles changent ce rapport au travail. Auparavant, les plus anciennes générations, le travail, c'était d'abord quelque chose de matériel. On cherche un travail pour garantir un revenu, pour nourrir sa famille, etc. Et la vie du loisir, du hobby, la vie privée, elle est distincte de la vie professionnelle. Ce qu'on voit avec les jeunes générations, c'est un brouillage des cartes entre la vie professionnelle et la vie privée, où on considère que l'emploi ne doit pas être seulement un moyen d'être rémunéré et de subvenir aux besoins de sa famille. C'est aussi un endroit où on doit pouvoir investir des valeurs, défendre les valeurs en tout cas qui nous sont chères, et aussi s'épanouir. S'épanouir parce qu'on donne du sens à son travail, etc. etc. Et c'est la raison pour laquelle voilà, on a des profils de jeunes de plus en plus hein, qui, ben, par exemple, qui sont très peu satisfaits de l'emploi qu'ils vont avoir. Donc, par exemple, on a beaucoup de ce qu'on appelle le bore-out, qui s'ennuie, qui ne trouve pas de sens dans le travail pour lequel ils se sont battus, hein, dans la compétition scolaire, ils arrivent à avoir le taf qu'on leur avait promis, ils se rendent compte qu'en fait ça ne permet pas de défendre leurs valeurs politiques, de défense de l'environnement ou autre, où ils s'ennuient et donc ils décident donc de changer d'emploi à cause de ça. Et effectivement, on sait que l'environnement est une des premières causes politiques à défendre chez les nouvelles générations.
Christian parlait des diplômés de Sciences Po qui deviennent boulangers ou viticulteurs, ou, etc. Mais on a vu cet été la difficulté pour les restaurants, l'hôtellerie, l'agroalimentaire, les vendanges, les cueillettes. Il y a aussi toute une frange de gens qui ne veulent plus travailler dur en étant mal payés, en étant peu considérés, etc. Donc, et qui ne sont pas forcément diplômés.
C'est exactement ça. C'est lié à un peu à ce que je viens de dire sur le rapport au travail. C'est-à-dire que le travail, c'est pas uniquement pour subvenir à ses besoins. Donc effectivement, on est plus prêt à n'importe quoi pour avoir un emploi. Donc si l'emploi a des qualités, a des conditions de travail qui ne sont pas satisfaisantes, où on est mal considéré, où on n'est pas respecté, on a des difficultés de logement, on ne peut pas avoir par exemple de possibilité en cas d'enfant, on a un enfant, voilà, on est un jeune avec un enfant, s'il n'y a pas de possibilité de mode de garde par exemple, voilà, où vous êtes saisonnier, il n'y a pas de possibilité de logement dans l'endroit où vous allez, pareil. Voilà, donc il y a des conditions de travail qui sont de plus en plus importantes et ça c'est dû aussi à ce rapport au travail qui change, on n'est plus prêt à n'importe quoi chez les nouvelles générations. Mais il y a aussi un enjeu de niveau de diplôme, où malgré tout, on a un niveau de diplôme qui s'élève au sein de toutes les générations. Donc les nouvelles générations n'ont jamais été aussi diplômées aujourd'hui en comparaison, quand on compare aux anciennes générations. Et donc, quand on considère tous ces emplois non pourvus, dont on a beaucoup parlé cet été, tous ces emplois, la plupart du temps, ce sont des emplois de très mauvaise qualité, c'est-à-dire peu qualifiés. Et donc, il y a un décalage entre le niveau de formation des jeunes aujourd'hui et les emplois qu'on leur propose. Donc, on dit chômage des jeunes, mais il y a des emplois vacants. Oui, d'accord, mais s'il y a un décalage très élevé entre le niveau d'éducation, par exemple, vous avez une licence ou un master et on vous propose d'être saisonnier dans un métier très peu qualifié, ça ne correspond pas du tout à votre niveau de formation, vous dites non, j'ai pas été formé pour ça, je n'ai pas travaillé autant, ayant eu des difficultés par exemple de précarité pendant mes études, etc., pour accepter de nouveau un emploi que j'aurais pu faire même sans toutes ces années d'études. Donc en fait c'est les deux, c'est à la fois le niveau d'éducation qui s'élève par rapport aux emplois qu'on propose, mais aussi le rapport au travail qui évolue.
Notre émission s'achève, Tom Chevalier. Dernière chose, faut-il y voir un signe d'espoir cette semaine? L'INJEP, Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, le CREDOC, ont publié leur baromètre du moral des 18-30 ans, la vie en ligne de 4500 jeunes. 66% se disent confiants dans leur avenir personnel pour les trois années à venir. 33% affirment être dans un état d'esprit négatif, mais ils étaient 45% en 2011. On finit sur cette note, je ne sais pas, positive. Je rappelle l'ouvrage de Tom Chevalier et Patricia Loncle, Une jeunesse sacrifiée, édité au PUF. Et le livre coûte 9,50 €. Merci infiniment et à bientôt pour une autre émission de Chercheurs en ville sur Canal B.